Creo que es mucho. No sé. Qu'est-ce qu'on a fait? En fait, il y avait un chemin qui n'était pas sur cette carte-là.
Ah.
Donc on va continuer, on devrait retomber sur un chemin. Et...
Ok.
Un vrai chemin cette fois, normalement.
Ouais.
Ouais, ça, en plus, je discute, je ne peux pas être plus.
Le mercredi 23 février, j'ai rejoint le village abandonné de Cléda en empruntant une route escarpée pour passer la matinée avec Jessica Hureau, chargée de mission Grand Prédateur au parc naturel régional de Mille Vaches.
Alors, on est en train de marcher sur un chemin, on s'est garé à Cléda, et donc je suis avec Jessica. Jessica, est-ce que tu peux te présenter ta mission? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là, en fait, exactement?
Alors, donc, je suis chargée de mission au parc naturel régional de Mille Vaches en Limousin, sur les grands prédateurs, donc notamment sur le loup. Et là, aujourd'hui, on est en train d'aller voir et de poser des pièges photographiques pour essayer de capturer des images de loup. Donc, on va les installer, les déplacer ou les régler de manière à optimiser la capture de photos. Il faut que je trouve le piège.
Alors, pour situer un peu sur le contexte, on a des traces de passage de loup. Toi, ton travail, du coup, ça consiste à relever ces traces-là et à mettre en évidence sa présence?
C'est ça. Alors moi, j'ai plusieurs missions. À la base, j'étais recrutée à un moment où on n'avait pas encore de loup. On avait eu quelques passages, mais vraiment anecdotiques, une fois par an, même pas. Et donc, on voulait anticiper l'arrivée du loup, permettre d'instaurer un contexte favorable aux discussions, aux échanges et à la mise en place d'actions collectives qui nous permettraient d'avancer. Et il se trouve qu'en fin d'année 2021, on a commencé à avoir des indices de présence un peu plus nombreux et les premiers constats de dommages sur troupeau. Donc tout s'est un petit peu précipité et donc on n'est plus dans de l'anticipation, mais vraiment dans de la réaction. Donc, il faut un petit peu accélérer. Et du coup, ma mission, donc, elle est triple. Donc, au début, c'est de la primo-détection, donc la détection des premiers indices de loup, de l'arrivée du loup. Sauf que là, on a dépassé ce stade, on est vraiment dans du suivi. Donc, je fais à la fois le suivi par piège photographique, le suivi par recherche d'indices de présence en prospection, soit dédié, soit je vais faire autre chose et puis je regarde si je trouve des indices. Et on crée aussi une application qui permettrait à toute personne de remonter un indice de présence que moi, j'évaluerais pour savoir si ça pourrait être du loup ou non. Et que je transmettrai ensuite à l'Office français de la biodiversité qui est chargé de l'expertise de ces indices. Donc ça, c'est pour la partie indice de présence. Et après, il y a la partie de concertation, création d'un groupe d'entente entre les différents acteurs de la thématique pour justement se mettre tous autour de la table, partager nos connaissances, nos compétences et essayer d'apporter des solutions concrètes sur le terrain pour pallier à ce qui n'est pas forcément fait rapidement, notamment les mesures de protection, qui peut prendre un petit peu du temps. Et beaucoup d'informations aussi auprès des éleveurs, parce qu'en fait, on se rend compte que cette problématique, elle est souvent due à un manque de connaissances. Donc on va piocher les informations un peu où on veut, et en fait, on n'a pas toutes les données en tête. Du coup, on peut prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes, ou avoir une position qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, c'est beaucoup de communication, beaucoup de rencontres avec des personnes, et essayer de leur apporter des solutions, de les rassurer aussi. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans la problématique loup, c'est que les éleveurs, comme les habitants, les touristes, s'inquiètent de rencontrer un loup, que le troupeau soit attaqué. Si on est face à un loup, on ne sait pas comment réagir, on a peur qu'il mange les enfants, qu'il rentre dans les villages. Donc il faut rapporter un peu de faits là-dedans, des choses plus rationnelles pour qu'on puisse vraiment discuter posément. Et faire avancer les choses surtout.
Alors là, très concrètement, est-ce qu'on est en danger? Est-ce qu'on peut se faire manger par un loup?
Non. En France, les cas d'attaque, entre guillemets, de loup sur l'homme étaient dus à la rage. Donc des animaux qui, en fait, à cause de la bactérie de la rage, perdaient toute peur de l'humain. Le conditionnement que le loup a pu avoir, parce que depuis des millénaires, l'homme et le loup sont un peu en compétition, et donc l'homme essaie de faire fuir le loup. Et l'instinct que le loup a pu avoir au fil des millénaires, il a disparu avec la rage. Du coup, il attaquait un petit peu les gens. Et on se demande parfois aussi, à l'époque, on envoyait les jeunes enfants donc de 6-7 ans garder les troupeaux. Donc on se demande aussi s'il n'y a pas eu des cas d'attaque sur l'homme comme ça, mais on n'a rien de prouvé. Pour le moment, c'est vraiment considéré comme un mythe, c'est quelque chose d'imaginaire. Voilà.
Donc on est d'accord, les quelques loups qu'il y a autour de nous n'ont plus la rage.
Non, la rage a été éradiquée de France depuis 2001. Donc normalement, on craint rien, sauf si on a peut-être des loups qui ont été réintroduits de quelque part où il y a encore la rage. Mais en Europe, on n'en a plus, à ma connaissance. Donc on craint rien sur la rage. Et puis sur les attaques, alors il peut y arriver des rencontres un petit peu agressives quand le loup se sent menacé. Donc il va montrer les dents, il va grogner, mais normalement il attaque pas, à moins vraiment de le pousser dans ses retranchements, mais ça c'est très très rare. Donc si on rencontre un loup, il vaut mieux éviter, reculer doucement, tranquillement, s'il s'approche un petit peu en étant menaçant, crier, agiter les bras, ne surtout pas courir parce que ça peut déclencher un instinct de chasse entre guillemets, donc il ira pas jusqu'au bout mais ça va le faire courir et nous ça va nous faire très peur. Donc voilà, normalement on craint rien. Et on a aussi très peu de chances de rencontrer un loup, puisque sur le territoire, donc, on ne peut pas évaluer précisément le nombre de loups, mais on sait qu'on n'en a pas énormément. On en a au moins un, peut-être deux, mais certainement pas plus. Et actuellement, ils ont l'air d'être plutôt dans le sud Creuse qu'ici, donc en Corrèze. Donc, voilà. Mais on pose quand même des pièges au cas où, puisque c'est un animal qui est très mobile, qui peut faire 80 km dans une journée et donc se déplacer énormément sur le territoire.
Donc. D'accord. Donc là, tu t'apprêtais à relever ou à poser un piège ?
Donc là, je vais relever le piège photo. Okay. Donc j'ai regardé un petit peu les vidéos et faire des réglages. Parce qu'on avait placé un temps de capture de 20 secondes et on a trouvé que c'était trop long. Donc on va réduire pour essayer d'avoir plus de vidéos et moins de vidéos où on a 3 secondes de déplacement d'un animal et 17 secondes de rien. Mmh. Donc il faut que je trouve les clés. Donc c'est tout un...
Ah oui, donc c'est le petit boîtier marron là qui est contre l'arbre, enfin c'est pas sanglé d'ailleurs, c'est attaché avec une sorte de câble.
Donc on a la sangle de base et on a un câble de sécurité pour éviter les vols, parce que ça peut arriver. Donc voilà, on a aussi le cadenas ici pour encore limiter le vol et le boîtier anti-vol. Sachant que bon, là on les a pas du tout cachés parce qu'on est dans un endroit où on n'a pas trop de végétation basse, donc on n'a pas trop le choix, on est obligé de les laisser visibles. Et en plus on a communiqué avec les personnes susceptibles de les voir, donc chasseurs, forestiers, pour qu'ils ne s'inquiètent pas, qu'ils ne se posent pas de questions sur la présence de pièges photos, qu'ils ne se sentent pas observés, épiés et surveillés surtout.
Ouais. Alors je note que le piège a un camouflage qui imite l'écorce de l'arbre.
Voilà. C'est ça, donc le but c'est qu'il soit le moins visible possible. Voilà, encore pour éviter le vol et puis éviter d'être vu par les animaux aussi. Parce que du coup, si on avait un truc rouge plus haut, ça serait un peu moins discret. Alors.
Je dois reconnaître que je ne l'ai pas vu quand on discutait juste avant, je l'avais même pas vu en fait.
Ouais, bah en fait, quand on sait ce qu'on cherche, on le trouve, mais c'est vrai que des fois, on ne voit pas. Donc ceux qui ont l'habitude de venir ici, ils vont le voir. Mais souvent, les gens ne le repèrent pas. Alors là, il est en train de nous prendre en vidéo. Ouais. Mais moi, je vais accéder au menu.
Ouais, donc là, tu as un petit écran, j'imagine, qui te permet de voir ce qui a été filmé, en fait.
C'est ça.
Donc ça fait combien de temps qu'il a été posé, celui-là ?
Donc celui-ci a été posé fin janvier, vers le 20. Il a été relevé... Enfin, une première fois, on a regardé ce qu'il y avait sans le relever. Et je l'ai relevé la semaine dernière. Enfin, c'était surtout pour changer les piles. Là, je vais mettre 10 secondes pour essayer de voir si ça fonctionne mieux. Alors là, celui-là, il a pris que moi en photo en train d'installer.
Et donc celui-là, donc, il est juste à côté d'un petit chemin forestier. Donc il est censé prendre les animaux qui passeraient sur ce chemin.
Voilà, alors pour le loup, on essaye de mettre les pièges photos sur des croisements de chemin. Parce que donc, le loup, c'est un animal qui est un peu fainéant. Il passe par les chemins les plus faciles. Au lieu de traverser toute la forêt, passer dans les taillis et tout ça, il va prendre les chemins. Donc on a plus de chances d'en voir sur un chemin. Par contre, si on les met sur des chemins linéaires, on va pouvoir voir les animaux qui y passent. Par contre, si on a un croisement un peu plus loin et que l'animal a changé de route, donc au lieu d'aller sur le chemin où on a le piège photo, il continue tout droit par exemple, ben on va le louper. Alors que si on met au croisement de chemin, on a des chances de prendre les animaux qui vont dans toutes les directions.
Cette campagne de piège photo, elle dure depuis combien de temps ?
Alors, la première installation a commencé fin décembre. On l'a mis chez un éleveur partenaire qui avait déjà eu des observations il y a quelques années. Donc on l'a mis là parce que c'était plus pratique, puisque les pièges photo, comme ils sont, ils filment en fait. On ne peut pas les mettre n'importe où. Donc là, on avait l'autorisation du propriétaire. donc c'était beaucoup plus simple pour nous. Donc on les a installés là-bas. Et après, donc les premiers ont été installés ici le 20. Donc on a mis un peu plus de temps que ce qu'on prévoit.
Le 20 décembre ?
Le 20 janvier.
20 janvier, d'accord.
Oui. Et à la rentrée 2022, on a décidé de mettre en place le protocole sur la forêt de l'Arfeuille. Donc là, on a choisi ce secteur-là parce que cette forêt est gérée par l'ONF, l'Office National des Forêts. Donc on n'avait qu'à demander leur autorisation pour poser les pièges. En zone communale, il faut demander au maire. Et parfois, si on est sur des sections privées, ou, voilà, il faut demander au propriétaire. Donc il faut retrouver le propriétaire, déjà. Du coup, c'est un petit peu plus long. Donc l'Arfeuille, c'était la solution de facilité à l'époque où on avait peu d'indices. Là, avec l'arrivée du loup, on va peut-être revoir un petit peu notre plan pour mobiliser les pièges photos ailleurs, à des endroits qui seraient un peu plus propices.
Si je résume, donc cette campagne de pose de pièges photographiques, elle a commencé il y a 2 mois, en décembre 2021. Et donc moi, je me pose la question, est-ce que ça a donné des résultats? Est-ce que ça a permis de prendre en mouvement des loups qui passaient au croisement d'un chemin?
Malheureusement, non. Donc déjà parce qu'on les a posés sans avoir à la base d'indices. Et en plus, le loup étant très mobile, il est passé par ici, mais il n'y est pas resté. Par contre, il pourra revenir. Donc pour le moment, on les laisse. Parce qu'on a un ou plusieurs individus qui sont très mobiles, qui n'ont pas encore établi de territoire. Du coup, on n'a pas de convergence d'indices qui nous permettent de dire « Là, c'est intéressant de mettre un piège, parce qu'il va repasser. » Donc on tâtonne un petit peu. Mais on va affiner au fur et à mesure où on recevra des indices, où on en trouvera, on affinera un petit peu la pose de piège. Mais c'est intéressant aussi parce que ici on est sur un territoire de SIEM, donc un site d'intérêt écologique majeur, sur lequel on a peu de données. Donc en fait, ces pièges photos nous permettent aussi d'avoir des informations sur les espèces présentes ici.
Oui.
Donc ça sert à plusieurs missions en fait.
Oui, on rentabilise un peu, entre guillemets, voilà. La pose du piège.
C'est ça, à l'époque où on avait peu d'indices, on en a encore assez peu aujourd'hui. Hein. On s'est dit autant mutualiser les moyens.
Oui.
Voilà, c'est un peu plus logique.
C'est un peu, on est un peu essoufflé, hein, mais c'est un peu sportif. Hein.
Oui.
Alors on vient de faire un petit peu de voiture pour passer sur un autre site parce que la forêt est grande quand même. Juste avant on pouvait entendre nos bruits de pas dans la boue. C'était un peu spongieux, un peu humide. Alors Jessica, j'ai remarqué que quand on se balade sur ces chemins, tu as tendance à avoir l'œil un peu aux aguets, à regarder par terre ou à regarder sur les côtés. Est-ce qu'il y a une raison à ça?
Oui, alors là, quand je fais ça, je cherche des indices de présence. Donc c'est une déformation que j'ai un petit peu de regarder plutôt le sol que les alentours hauts. Donc je cherche soit un loup visible, enfin à le voir vraiment à l'œil, même si c'est peu probable. Je cherche des empreintes, des crottes. Et si on avait des barbelés, je chercherais des poils dans les barbelés. Donc ça c'est très important parce qu'en fait les indices de présence c'est ce qui nous permet vraiment de connaître à la fois les populations nationales de loups mais aussi les populations locales, voire les individus. On pourrait réussir à déterminer leur territoire, les endroits où ils aiment passer, où ils aiment chasser, où ils se reposent. Donc en fait plus on a d'indices, plus on a d'informations sur les loups. Donc on a vraiment besoin d'en trouver, notamment sur des territoires où ils viennent d'arriver. On connaît peu, oula. Et où on a besoin d'avoir plus d'informations.
Et donc toi, dans le coin, c'était déjà arrivé de trouver des traces pardon, de pattes de loup ou des poils?
Oui, donc j'ai fait... Oula. On va passer chacun
peut-être au milieu,
tour.
Ouais.
Oui, donc à chaque sortie, je faisais des recherches, mais sans vraiment venir pour ça. Et une fois, pour la première sortie que j'ai faite dédiée à la recherche d'indices de présence, eh ben, j'ai eu la chance de tomber sur une piste qui pouvait correspondre à celle d'un loup. Donc j'ai envoyé pour expertise et qui est revenu comme pouvant être dû à un loup. Donc c'était un coup de chance, parce qu'en général, quand même très peu de probabilité, surtout sur un territoire de colonisation, de tomber dessus. Et là, première sortie, bim, une empreinte. Donc j'ai augmenté mes chances en sortant un jour de neige. Donc en fait, l'hiver, c'est vraiment la saison privilégiée pour rechercher des indices. Parce que grâce à la neige, on va très facilement voir les pistes, les empreintes. Mmh. Et grâce à ça, en les suivant, on peut trouver des indices dits génétiques, donc tout ce qui va être urine, poils, crottes, qui vont pouvoir nous donner des indices sur les loups. Donc est-ce que c'est vraiment du loup déjà? Quel est son sexe? Quelle est sa lignée? Donc est-ce qu'il vient des Alpes, enfin d'Italie, ou est-ce qu'il vient d'Europe de l'Est? Et des fois, on peut réussir à avoir la caractérisation de l'individu, donc avoir vraiment son profil génétique. Du coup, c'est vraiment très important de suivre les empreintes, les pistes, sur les plus longues distances possibles, pour augmenter nos chances de trouver tous ces indices-là.
Et donc si tu trouves que des empreintes, mais pas de traces génétiques, donc pas de poils, pas d'urine, pas d'excréments, tu peux pas avoir la confirmation à 100% que c'était bien loup. Ça peut être une espèce de chien, j'imagine.
Oui. Alors on n'est jamais sûr à 100%, mais on a quand même des indices qui différencient la plupart des chiens des loups par rapport à leurs empreintes. Donc ce qu'il faut regarder, c'est pas une empreinte seule ou pas quelques empreintes. Ça suffira pas à différencier un loup d'un grand chien. Par contre, la piste, donc c'est vraiment l'alignement des empreintes, nous donne des indications. Donc en fait, un loup, il court avec les pattes assez sur une ligne, en fait, en mettant les pattes arrière dans les empreintes des pattes avant. Du coup, on a l'impression d'avoir une ligne droite avec une seule empreinte. Les chiens, eux, ils ont tendance à courir 4 à 4. Donc on voit à chaque fois deux empreintes côte à côte.
D'accord.
Qui se succèdent. Après, le loup peut courir comme un chien sur une petite distance et le chien peut courir comme un loup sur une petite distance. Il est donc important de suivre les empreintes sur la plus longue distance possible, au minimum 150 voire 300 mètres, pour s'assurer que ce n'est pas un animal qui a changé d'allure entre-temps, pour se rapprocher d'une allure plus lupine.
D'accord.
Et donc, voilà, ça complique un peu les choses.
Donc si tu vois en gros une piste, où donc tu as cette caractéristique, on va dire, de loup, tu vas t'assurer que ça dure au moins quelques centaines de mètres, voilà. Pour voilà, écarter l'hypothèse que c'est un chien qui s'est mis à marcher comme un loup.
Voilà, c'est ça. On doit, vraiment enquêter un peu, hein, pour voir ce que ça pourrait être. Alors, là on a des crottes de chevreuil, je pense. Je trouve des informations sur d'autres espèces aussi, hein. Ça peut être intéressant,
ouais.
Notamment les proies du loup.
Ça peut être des indices aussi des...
Oui. Donc les carcasses de proies sauvages font partie des indices de présence qui sont très utiles pour poursuivre la population de loups. Donc on a plusieurs indices, j'en ai déjà cité une partie. Donc les empreintes et pistes, les observations visuelles, les poils, excréments, urine, les carcasses de proies domestiques. Donc ça c'est les constats de dommages sur troupeau que réalise l'Office français de la biodiversité. Les carcasses de proies sauvages. Et le sang, mais ça c'est beaucoup plus rare. C'est soit un animal qui s'est blessé, soit une femelle au moment des chaleurs. Mais c'est assez rare et c'est dur à trouver. Par contre, les carcasses, ça peut être un signe. C'est souvent le premier signe en fait, que ce soit proie sauvage ou proie domestique. C'est souvent le premier signe de la présence d'un loup, parce que c'est facile à repérer. Et le loup, il a besoin de manger, donc forcément, quand il va arriver sur un territoire, il va prédater. Et donc c'est plus facile à voir qu'une trace. Donc quand on ne soupçonne pas la présence d'un loup, voir la carcasse, ça nous dit tout de suite si c'en est un ou pas, quoi. Ça nous met la puce à l'oreille. Donc ça, on est formé par l'OFB pour trouver tous ces indices de présence.
Et donc la situation actuellement sur le plateau de 2000 vaches vis-à-vis de la présence du loup, c'est quoi exactement du coup? Est-ce qu'il est de passage? Est-ce qu'il commence à s'installer?
Donc on va parler d'installation quand un loup est présent pendant au moins 2 hivers consécutifs sur un territoire. Donc pour l'instant c'est le premier hiver, du coup on ne pourra pas définir s'il y a une installation ou pas. Par contre on sait qu'il est présent pour le moment. Donc on observe ses déplacements avec les indices et les constats. Pour le moment, il a l'air d'être plutôt en creuse, donc vers Jean-Sioux-Pigerol, Feignier. Mais il y a des moments où on n'a plus d'indices. Après on va en avoir plein. Donc c'est un peu difficile à suivre. Parce qu'en fait on n'a pas encore de réseau loup-lynx bien installé. On n'a que quelques correspondants. Et donc c'est un peu compliqué de suivre les déplacements quand on est une vingtaine sur un territoire.
Et qu'est-ce qui permet d'authentifier que c'était vraiment des attaques de loups?
Alors l'OFB réalise un constat de dommage qui est basé sur l'étude des éléments permettant de caractériser la mort de l'individu. Donc définir s'il est mort naturellement, par prédation, non-prédation. Et ensuite si on voit que c'est une prédation, on recherche des indices qui pourraient exclure le loup en fait. Parce que comme on ne peut jamais être sûr à 100% que c'est un loup, on essaye de trouver les éléments qui excluent le loup et s'il n'y en a pas, on dit que c'est du loup. Comme ça c'est plutôt au bénéfice de l'éleveur. Parce que même quand on n'est pas sûr à 100% que c'est du loup, on peut quand même retenir le dommage et donc indemniser l'éleveur. Et donc les indices qui nous aident à savoir ça, c'est la présence de stigmates de prédation, donc c'est des perforations ou des lacérations, leur localisation et leur caractéristiques, diamètre, profondeur, voilà, c'est un petit peu tout ce qui sert. Après il y a le mode de consommation, donc savoir comment l'animal a été mangé. Donc en fait le loup va avoir tendance à prendre l'animal au cou, il serre très fort les mâchoires, ce qui broie les voies respiratoires, et donc l'animal meurt assez rapidement. Et ensuite il va consommer en ouvrant donc au niveau du thorax et en faisant sauter le sternum, ou parfois en passant par en dessous, en cassant le diaphragme et en allant manger les viscères thoraciques par le bas. Il peut aussi parfois ouvrir au niveau abdominal, mais c'est moins intéressant pour lui parce qu'il ne mange pas les viscères abdominaux, il mange surtout les viscères thoraciques qui sont riches en fer et en éléments nutritifs pour les carnivores.
Les viscères thoraciques, c'est quoi? Tout ce qui est cœur, poumon,
foie, surtout cœur et foie. Alors que les viscères abdominaux, par exemple la panse, elle est toujours mise de côté. Généralement, on l'observe, elle est intacte, à côté du cadavre. Bon, tout ce qui est pancréas, tout ça aussi, c'est laissé de côté. Par contre, il peut manger la chair qui tapisse la peau, tout simplement. Il peut parfois manger aussi les gigots ou les cuisses. Des fois, il emporte une épaule. Voilà, c'est des éléments qui diffèrent un petit peu selon les individus. En tout cas, la méthode de mise à mort est toujours la même. C'est toujours au niveau du cou, d'une morsure très profonde, très puissante.
Et donc un gros chien errant qui aurait exactement la même morphologie qu'un loup mangerait l'animal d'une manière différente?
Ouais, généralement les chiens, c'est plus souvent du jeu que vraiment de la chasse pour se nourrir. Et ils sont beaucoup moins expérimentés, beaucoup moins puissants aussi. Donc ils peuvent pas prendre à la gorge et broyer les voies respiratoires, voire les cervicales. Ça ils le feront jamais, même des chiens puissants. Donc en général on observe des morsures à plusieurs endroits, très peu de consommation. Donc après il y a des chiens qui peuvent prendre au cou, mais voilà, ils sont pas si puissants. En fait souvent on dit que le loup est assez propre, c'est presque un chirurgien. Donc il va vraiment prendre aux bons endroits pour tuer l'animal, découper la peau au niveau du thorax de façon très propre, ronger les côtes, vraiment enlever la chair mais de façon méthodique, et du coup c'est entre guillemets propre parce que ça reste un corps quand même, mais c'est vraiment net, alors que les chiens c'est très brouillon, c'est des morsures un peu partout, pas très profondes, donc ils font couler le sang mais sans tuer l'animal sur le coup. Donc si on ne le retrouve pas assez vite, il peut se vider de son sang, alors qu'un loup aura tendance à le tuer vraiment sur le coup.
Thank you.
Merci Jessica pour cette balade matinale où j'ai appris plein de choses et où les auditeurs et auditrices vont apprendre plein de choses aussi.
Ben, merci à toi pour m'avoir demandé de faire cet entretien et j'espère que ça pourra aider plein de monde à avoir plus d'informations et motiver des gens à nous donner des indices, à travailler avec nous. Thank you.